Courant d'air
au-delà des frontières.
L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Aujourd'hui, nous parlons justement d'un peuple dont le voyage est le mode de vie à part entière. Ils ont plusieurs noms, les Gitans, les Manouches, les Roms. On leur attribue beaucoup de mythes et ils nous effraient autant qu'ils nous fascinent. Mais qui sont-ils ? Pour en parler, je suis dans la caravane d'Emmanuel alias Manolito, authentique Gitan, qui nous en parle.
Bah déjà, il faut savoir qu'il y a des Manouches, voilà. Il y a aussi les gitans catalans, il y a les gitans andalous, il y a les gitans d'Europe de l'Est, tout ce qui est Rome, Ungaro, Singaro, Bulgare, Yougoslave, Manouche Yougoslave. Après, il y a tout ce qui est Rajasthan, l'Égypte, la Turquie. Voilà, déjà, il y a pas mal. Ils tous ont forcément des langues différentes. Et une langue qui nous rapproche, qui est d'origine de l'Inde. Du coup, c'est le Kalo, où on dit Kalo ou Calais, qui est une langue qui est en train de un peu, plus ou moins de s'éteindre. Donc il y a encore les Manouches qui le parlent, il y a encore des gitans andalous, des gitans catalans qui le parlent un peu partout, qui a des similitudes avec la langue hindoue. Mais voilà quoi, ça arrive pour nous dire qu'il y a quelques hindous qui peuvent comprendre certaines phrases ou certains mots. Voilà. Mais une langue qui est en train de se perdre, comme le vieux français quoi. Qui parle le vieux français de nos jours. Et donc la gitane, la langue calo, qui est encore plus ancienne.
Et du coup, est-ce que c'est une origine commune ? Est-ce que tu saurais nous retracer l'histoire, un peu l'évolution, le périple gitan ?
Ben, plus ou moins, parce que c'est pareil, il y a eu un tas de mélanges aussi. Ben, c'est sûr que le départ vient de l'Inde, qui est descendu en Europe de l'Est et tout ça. Par exemple, quand ils sont arrivés en France, c'est donc le mélange qu'il y a eu avec les Allemands pour les Manouches. Voilà. Après, ils sont descendus vers l'Espagne. Et donc, ils étaient en catalan, ils étaient andalous, et les andalous sont arrivés comme en 1486. Donc, il y a super longtemps. Donc, plus nomades. Mais qui vivaient quand même en maison troglodyte. On appelle ça les cuevas.
Tu appartiens à quelle communauté ?
Ben, la communauté gitane andalouse. Moi en question par exemple, je suis né quand même dans le sud de la France, donc mes parents immigrés. Et je suis né entre la Camargue et Bordeaux. Et voilà, j'ai grandi sous le pont d'Aquitaine, au petit village andalou.
C'était comment d'être enfant gitan ?
D'être enfant gitan, faut savoir que moi j'ai pas été à l'école, c'est ma mère qui était instruite qui m'a fait l'école déjà. Donc c'est vrai que mon père lui était un peu vieux jeu, donc l'école ça lui faisait peur, et le racisme et tout ça. Et il fallait faire en sorte qu'on se fasse le moins voir possible, c'est de son époque, puisque lui ils avaient une carte spéciale donc pour dire qu'ils étaient gitans. Et donc parqués, souvent hors de la ville, assez loin, pour pas gêner. Voilà, pour pas déranger quoi. Ben, bien sûr on avait tout un camp, de toute façon il y avait un camp, il y avait le camp, ça s'appelait le petit village andalou, et après il y avait trois camps à côté, c'était des Manouches, trois camps de Manouches. Il y avait assez une bonne entente en général, donc ça allait quoi. Par contre bon, après avec la cité, le quartier qu'il y avait à côté, c'était un peu léger quoi, mais ça allait en général. Ça allait. Il y a eu bien sûr quelques histoires comme n'importe où Mais bon, ça allait, quoi.
T'as quitté le foyer à 15 ans pour démarrer tes grands voyages?
Ouais, le sud de la France, Marseille, Sainte-Marie-de-la-Mer, tout ça. Enfin, le sud en général. Et puis, surtout les allers-retours entre l'Espagne et la France, quoi. Donc, dans le nord de l'Espagne aussi, parce que j'ai des amis à Valencia, en Tarragona. Hein. Et puis, le jour où je suis parti définitivement, ça a été pour marcher. J'ai fait une marche donc, de Pau jusqu'à Séville à pied. J'ai mis 3 mois. Donc, sac à dos, guitare, pour aller de Peña en Peña, un peu pour le flamenco. Et donc après, je suis parti à Isnahar. Là, c'était un village qui est près de Grenade. Là, je suis resté 3 années. Et donc ensuite, là, c'est pareil, il n'y avait pas trop de travail pour moi. Donc je suis parti à Grenade. Et Grenade, ça a été excellent, quoi. La maison troglodyte, le village des Gitans. Et donc là, j'ai baigné dedans, quoi. Trop bien, quoi, pour la musique surtout. Et donc excellent, quoi. Ça m'a ouvert des portes.
C'est là-bas du coup que tu as été formé auprès de maîtres à l'art du flamenco et de la musique.
Voilà, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, beaucoup, comment dire, entre amis, entre connaissances, parce que voilà quoi, c'est tout le monde joue. Tout le monde fait du flamenco, enfin beaucoup, quoi. Donc si bien que ce soit de la danse ou du chant ou la guitare, quoi. C'est tout un mode de vie, c'est plus que de la musique. C'est du respect des choses, le respect des gens, le respect pour le sacrifice de certaines personnes qui ont travaillé dur. Parce qu'il y a un arbre géologique, par exemple. Des chants, des tons et un arbre géologique des maîtres. Donc par exemple ma voix, si je chante, ils savent direct à peu près d'où elle vient, quoi, le style de voix. Et donc voilà, tout ce qui est basé sur le respect, donc vu tout le travail et toutes les années de pratique qu'il y avait pour certains, comme certains enfants qui en sortant de l'école n'allaient pas s'amuser. Et de suite on jouait ou on chantait, quoi. C'était comme pour certains en Afrique qui vont faire du foot, mais nous c'était maître de flamenco qu'on voulait devenir, mais bon. Mais on ne devait pas mettre comme ça, c'est sûr. On dit qu'il faut 2 vies entières pour savoir jouer. Ou danser. Parce que le flamenco est vaste, très grand, quoi. Faut savoir qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a 80 rythmes. Et chaque village d'Andalousie et aussi du nord de l'Espagne, il y a 4, 5, 6 rythmes. Et donc voilà, quoi. Par exemple, Cadiz, c'est Bulería, à Grenade, le tango, la sambra. Enfin, il y a plein de rythmes, quoi. Et chaque village a son rythme. Donc ben, tout le monde joue de tout, mais ça vient de tel endroit par rapport au maître qu'il y a eu et tout ça. Après le flamenco, il y a eu son évolution, mais bien sûr il y a l'origine arabe, arabo-andalouse. Je disais tout à l'heure, les Andalous c'était la terre des Arabes. Après quand ils ont été chassés par l'Espagne, et, du coup beaucoup se sont mélangés, et depuis longtemps déjà c'était mélangé avec des gitans, puisqu'ils habitaient derrière la muraille, en dehors de l'enceinte de la ville, quoi. Et donc il y a eu tout ce mélange-là, quoi. Et puis il y a aussi l'Inde, plus loin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été conservées. C'est le côté était tribal qu'il y avait, du flamenco d'ailleurs, qui est resté aussi. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a plusieurs types de flamenco, quoi. Enfin, il y a un flamenco et plusieurs rythmes, et suivant les rythmes, c'est suivant l'époque, suivant l'ancienneté du rythme, tout ça. Par exemple, la rumba qu'on connaît tous, la rumba catalane, par exemple, comme les Gypsy Kings, des choses comme ça, c'est un des rythmes du flamenco, dans les premiers, quoi. Et après, il y a plein d'autres rythmes, quoi. Donc beaucoup plus anciens et qui est d'origine arabe, comme la boleria qui est en 12 temps, comme la musique hindoue qui est en 12 temps, voilà, qui est que déconcertant pour certains quand ils veulent apprendre, parce que du coup c'est pas du 4-4, quoi, c'est un peu compliqué, quoi. On chante le pays, le quartier, la beauté qu'il y a autour, les gens, les scènes un peu de famille, quoi. Voilà, il sort sa table et il est dans un patio andalou où la famille se réunit pour chanter. Il raconte que ses enfants vont se mettre à la palmas, enfin c'est toute une mise en scène, quoi. Et dans les chansons on raconte ça, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Parce que le flamenco, c'était ça autrefois, beaucoup. Après, il y a eu des improvisations connues, du coup, et populaires. Et c'est pour ça qu'elles se traînent, et que certains, on ne connaît pas le titre. Parce que justement, ça a été des improvisations.
donc pour illustrer ton propos, est-ce que tu vas nous jouer un morceau de guitare?
C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est d'un gars qui s'est fait, comment dire, qui s'est fait un petit peu torturer par sa compagne, qui a le cœur qui saigne, quoi. Et en gros, qui lui dit qu'il a toujours été sincère avec elle, et donc pourquoi elle le fait tant souffrir, quoi. Ce qu'il veut juste, c'est qu'il soit avec elle et qu'il soit dans son âme.
Merci aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Vous venez d'entendre un air de flamenco traditionnel interprété en live par Manolito, gitan andalou, qui nous parle de sa culture, de la pratique du flamenco et de son parcours. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi la suite du voyage?
Mais en fait, je suis resté 3 ans à Isnahar et 6 ans à Grenade. Et après, les éléments de la vie ont fait que je suis revenu en France pour travailler un petit peu. Et là, je suis parti après en Amérique du Sud, pour voyager. Et là, j'ai fait Cuba, la Colombie, le Venezuela et le Brésil.
Est-ce qu'il y a une communauté aussi gitane là-bas?
Il y a une communauté gitane. Alors, on en trouve au Venezuela, parce qu'il y a aussi au Venezuela beaucoup d'origine arabe aussi. Mais on peut en trouver en Colombie. Après, il y a des endroits, je ne les connais pas personnellement, mais je sais que j'ai entendu dire, quoi. Et là, ils ont gardé au Venezuela... Les gitans andalous qui ont immigré il y a très longtemps déjà ont gardé justement la langue assez pure et le jeu de guitare assez pur aussi. du flamenco. Donc hyper intéressant pour moi, quoi. Donc j'en ai pas rencontré beaucoup. Parce que aussi, bon, le Venezuela, c'est un peu difficile, le pays est un peu compliqué. Donc les gens aussi ont gardé un peu en retrait leurs origines, certains, ou pas en cachant, mais presque, quoi. Mais on retrouve encore des familles, je les reconnais vite, quoi. On se reconnaît, d'un regard. D'un regard, on se reconnaît.
Et tu disais du coup que tu as été formé finalement, enfin tu as été instruit par ta mère. Cette communauté, c'est l'école de la vie aussi en même temps. Tu as appris beaucoup d'artisanat dans ta communauté et en dehors aussi?
Oui, bien sûr, dans ma communauté et puis ma mère. Parce que les gitans andalous, par exemple, beaucoup de familles étaient canasteros. Par exemple, le canastero, c'est ceux qui faisaient l'osier. Et on disait souvent d'ailleurs, les hommes se mariaient avec les filles de bonne famille de canastero. Donc voilà, puis mon père qui faisait le cuir, qui travaillait le cuir, la serrerie des chevaux et tout ça. Et qui, mon grand-père aussi qui vendait des chevaux, qui amenait d'Andalousie, qui les amenait en Camargue et tout ça, pour les vendre en France aussi. Donc il y a eu quand même beaucoup d'artisanat et la musique. Voilà, l'art en général et la musique, quoi.
Alors, est-ce que vous voyez un enfant?
J'en vois un, oui. J'en vois un.
Juste un?
Oui. Ah oui.
Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Et pour Jean?
Alors là, monsieur Jean, j'en vois quatre.
Quatre?
Ouais, si.
Ouais.
T'es vraiment un beau salaud, toi.
Aussi, les clichés qu'on a autour de ça, c'est la voyance, lire les lignes de la main, la boule de cristal. Ça, c'est juste un cliché ou...
Il y a les deux. Et c'est vrai qu'il y a certaines gitanes, on les reconnaît, certaines qui ont une mèche blanche d'ailleurs, qui a poussé un jour de nuit, on ne sait pas pourquoi, ils sont tombés, d'autres que pas du tout, mais qui n'ont pas forcément de mèche blanche, mais oui, il y a, on va dire qu'il y a des buena bruja, des bonnes sorcières, quoi, et ma mère en est une. Ma mère en est une, donc elle soigne les gens, tout ce qui est brûlures, des plaies ou des choses, de quelconque douleur ou... je sais pas, par exemple des verrues ou des choses comme ça, quoi. Mais ou à dire des choses, à arrêter les gens dans la rue pour leur dire des choses. On la prenait un peu pour une folle des fois, mais bon, les gens la recherchaient un peu partout quand ils voyaient que c'était vrai, quoi. Et oui, voilà, donc il y avait tout ça, quoi. Et c'est pas qu'un mythe. Mais après, il y a eu beaucoup un amalgame parce que justement, les étrangers qui arrivaient recherchaient ça, et du coup, beaucoup de gitanes qui ont un morceau de romarin, il lui donnait pour tes chances. Voilà, et il prenait la main pour lui lire les lignes de la main, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de charlatans, quoi.
Gitano, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout.
Gitano,
que tu ne connais pas.
Et se llama de ser un matador.
Un voleur de poules, un jeteur de sort.
Et à côté de tous les attraits qu'on peut trouver à la culture gitane, les mythes et les légendes, enfin tout ce qui attise notre curiosité, qui fait admirer, parce qu'on est toujours très fan, admiratif de cette musique. Il y a aussi pourtant en même temps une espèce de j'ai envie de dire, hantise ou de peur, de rejet auprès de cette communauté. Parce qu'on a beaucoup de préjugés sur eux. Pourquoi de toute l'histoire, on a toujours rejeté finalement les gitans?
Après, c'est un peu comme pour le racisme en général, mais tout ce qu'on ne connaît pas, l'intrigue, il fait peur. Donc après, il y a le mode de vie qui peut faire peur. Voilà. Au début, ils sont en caravane, ils arrivent, voilà, on va rechercher de l'eau, on va dans une fontaine, donc c'est les intrigues, quoi. C'est un peu, pour certains, une précarité, pour nous, la liberté. Et donc forcément, ça peut faire peur. Et puis, bien sûr, il y a de tout, quoi. Il y a des bons et des mauvais partout, quoi. Donc forcément, il y en a qui ont donné raison à ce racisme, et beaucoup de familles qui sont très religieux, où n'existe pas un seul voleur dans le camp. D'ailleurs, il y a des règles très précises. Par exemple, le patriarche, c'est quand il y a une famille et un jeune qui est voleur, il ramène la police au camp. C'est pas compliqué. Il y a une réunion et il y a un avertissement. Au deuxième, au troisième, c'est la famille entière qui dégage du camp. Voilà, pour éviter les histoires.
Souvent je deviens, mon ciel c'est le sien, je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom, c'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons.
Voilà, et donc forcément, bon, pour revenir au racisme, on n'allait pas forcément à l'école. Alors, on rentre pas dans les clous, on a des travails que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Il y en a plein, l'artisanat en général, voilà, ou d'autres faire la ferraille, ou récupérer des métaux, tout est bon pour avoir un peu d'argent. Et vu que personne ne voulait nous embaucher ou qu'il y avait des craintes ou des peurs, parce que les gitans c'est forcément des voleurs de poules, par exemple, mais c'est rigolo d'ailleurs. Alors des voleurs de poules, d'où c'est venu ce truc? C'est que sûrement pendant la guerre, les gitans autrefois vivaient forcément au bord des rivières, parce qu'il faut de l'eau, à la campagne il faut du bois, il faut tout ça. Et donc forcément les villageois autour qui t'aident pas trop, qui sont pas sur l'entraide en général. Donc à l'époque de la guerre ou quoi, où on meurt de faim ou quoi, on se débrouille coûte que goutte. Quand on a une famille à nourrir, on va sûrement piquer une poule ou deux ou des œufs par là. Donc mais c'est un mythe aussi, c'est un mythe, parce que il y en a plein qui adoraient les gitans, qui a eu beaucoup de mélanges d'ailleurs avec les gitans. On ne parle pas trop de ça d'ailleurs, notamment les Celtes par exemple, en Bretagne même. Et moi j'ai mon patriarche là où j'habite à Grenade. Il a un très 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 vieux livre qui ferait pas lire certains historiens, dans le genre où c'est marqué noir sur blanc qu'il y a eu du commerce avec des Bretons, des Celtes et tout ça, puisqu'ils vivaient en bord des rivières, dans les forêts, mais ils rencontraient les gens qui étaient près de la nature. Voilà, donc d'où les mélanges.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu la philosophie gitane qui t'a suivi toute ta vie finalement, qui te suit encore?
Déjà la musique, parce que ça a trait à la musique, parce que c'est tout un respect, d'abord de chacun, de partage, des différences aussi. Et donc c'est sur toutes ces qualités-là, quoi. C'est une musique de cœur, c'est une musique qui a de la force, c'est une musique qui a de la tristesse, c'est une musique qui a de la joie, et c'est convivial, quoi. Et c'est un peu l'esprit du flamenco. L'esprit du flamenco, c'est basé sur ça, sur tout ce respect. Voilà. Et tellement, tellement difficile et compliqué, cette musique, du coup, force à avoir une attitude de respect. C'est comme quelqu'un qui va faire des arts martiaux, c'est tellement dur, forcément, avec les années et le temps, ça va lui donner une tenue et un respect des choses, comme n'importe quel sportif d'ailleurs. Mais donc c'est un peu ça. C'est l'esprit du flamenco, c'est ça. C'est un respect d'autrui, c'est du partage et de la sagesse.
Et la liberté aussi. Est-ce que tu es tout le temps en mouvement?
Là, pour l'instant, artistiquement, ça marche bien pour moi. Donc j'y resterai un temps, mais forcément, je reviens aux sources. Ça, c'est normal, puisque je serai toujours un étudiant toute ma vie, de toute façon, du flamenco. Et comme je disais tout à l'heure, il faut 2 vies entières pour apprendre à jouer, donc j'ai le temps. Et donc je repars voir les maîtres et à baigner dedans, parce que c'est le passé qui vient là-bas.
Pourquoi as-tu commencé à voyager et tu continues ?
Eh bien, d'abord, quand je suis parti, que j'étais très jeune, j'ai voulu retourner au pays. D'abord, parce que je savais que la mentalité n'est pas la même entre les gitans andalous d'Espagne et les gitans andalous qui sont nés en France. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, les gitans andalous en Espagne, ben, on peut en voir un à la police, on peut en voir un qui est ouais, policier, ou on peut en voir un qui travaille à la mairie, chose que tu verras ça jamais en France, quoi. C'est normal, c'est là où c'est notre berceau. Donc forcément, il y a 80% des gens qui sont d'origine gitane, forcément. Et donc, rien que pour partir aux sources et montrer à certains aussi jeunes gitans andalous qui habitent en France qu'il ne faut pas oublier toutes les règles et la sagesse qu'il faut avoir, que certains ont perdu un peu, dû à plein de choses, bien sûr. Du racisme, c'est compliqué. Quand les gens souffrent aussi, dans l'autre sens, ils vont faire des choses que pas forcément qui sont des choses bien, quoi. Donc voilà, pour repartir aux sources et pour baigner dedans, quoi. Donc le voyage en général, c'est pour se trouver soi-même. Ça fait grandir. Et puis aussi pour le partage, pour aller à la rencontre des gens. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est, pour moi, la meilleure école, c'est voilà, l'école de la vie, c'est le voyage et c'est aussi un peu la rue, quelque part.
C'est la fin de ce numéro, en espérant que ce voyage musical vous a plu. Merci beaucoup Manolito, merci à DJ Brill pour la musique du générique et merci à tout Radio Campus Rennes. Et bien sûr, merci aussi pour votre écoute, chers auditeurs. On se quitte sur le titre poignant La Saeta de Camarón de la Isla. Je vous dis la chodrum, qui veut dire bonne route. À la semaine prochaine sur Courant d'air.
La saeta al cantar, al Cristo el oitano, siempre con sangre en la mano. Siempre por desenclavado, cantaba el pueblo andaluz que con la primavera anda pidiendo escalera para subir a la Jesús del Maero, sino al